France Culture.
Entendez-vous, l'écho poursuit sa semaine consacrée à l'agriculture à quelques jours de l'ouverture, et bien justement, du salon de l'agriculture. Nous avons étudié lundi les raisons qui poussent les agricultrices et agriculteurs à se tourner vers le bio. Hier, c'est la région de la Beauce où les machines ont progressivement envahi le paysage qui a constitué notre lieu de l'écho. Et aujourd'hui, c'est un concept, une réalité aussi à laquelle est particulièrement confrontée l'agriculture qui constitue notre mot de l'écho, celui de rareté, et à plus forte raison de rareté des ressources en eau, car c'est un fait, la consommation d'eau a été multipliée par 6 au cours du siècle dernier, soit deux fois plus vite que le taux de croissance démographique, une dynamique largement liée, entre autres, mais largement tout de même, aux besoins de l'agriculture qui prélève 70% du volume total d'eau disponible, une tendance de long terme qui pourrait menacer le secteur lui-même. Les épisodes de sécheresse et de conflits d'usage de cette eau dans certaines régions sont de plus en plus fréquents. Selon une étude du World Resources Institute parue le 16 octobre dernier, un quart des cultures agricoles mondiales se situent désormais dans des zones où les ressources hydriques diminuent fortement ou sont très instables. Un phénomène d'autant plus inquiétant qu'il concerne l'ensemble des usagers de ce bien commun. Or, c'est justement le caractère commun et global de la ressource qui peine à être pris en compte, et notamment par les sciences économiques, alors même qu'elle pourrait fournir des outils pour faire face à ce phénomène de rareté et à réguler les usages de cette ressource en eau. Car une ressource est avant tout ce qu'on fait d'elle. La rareté, phénomène certes naturelle, mais également éminemment sociale, pose plus que jamais question au fur et à mesure qu'offres, soit les quantités disponibles et demandes, c'est-à-dire les usages, semblent de moins en moins compatibles. C'est à la résolution de cette équation qui prend désormais la forme d'une urgence que nous nous attelons aujourd'hui dans cette émission programmée et préparée par Anouk Miliot, réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde par Jean-Guy Linge. Et deux invités sont avec nous aujourd'hui. Arnaud Boux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités en économie écologique à l'université Grenoble-Alpes. Vous êtes également membre du laboratoire PACT et vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « La pénurie en eau est-elle inéluctable ?» publié aux éditions Peter Lang il y a quelques années. Et c'est d'ailleurs un ouvrage qui est issu de votre travail de thèse. Et puis vous êtes avec nous à distance, il faut le préciser, depuis les studios d'ici à Grenoble. Et c'est Thomas Forain qui assure le duplex aujourd'hui. Merci à lui. Simon Porcher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous en studio, vous êtes professeur des universités en sciences de gestion à l'université Paris-Dauphine PSL. Votre ouvrage a aussi la forme d'une question puisqu'il s'intitule « La fin de l'eau, point d'interrogation » et il a paru l'année dernière aux éditions Fayard. Simon Porcher, première question pour se rendre compte, pour faire une sorte d'état des lieux aussi de cette fameuse ressource qu'est l'eau. Alors l'eau douce ne constitue que 2,8% de l'eau sur Terre et seuls 0,7% seraient disponibles pour la production d'eau potable. Est-ce qu'on peut, avant même d'évaluer la demande pour cette ressource ou les usages qu'on en fait, parler d'une rareté absolue, d'une rareté structurelle, justement parce que cette ressource est de fait limitée, ou est-ce qu'il faut nécessairement la mettre en regard du besoin qu'on a d'elle ?
C'est effectivement important de rappeler que l'eau sur Terre, hein, qui est la planète bleue, l'eau douce ne représente que 2,8% de l'ensemble des ressources en eau qu'on a sur Terre. L'essentiel de l'eau, c'est de l'eau salée qu'on va retrouver dans les océans, dans les mers. Mais l'eau douce, l'eau qu'on va retrouver sur les continents, sur les territoires, c'est effectivement une petite partie de l'eau qu'on a sur Terre. Et en plus, parmi ces 2,8%, les deux tiers sont détenus dans des glaciers. Et les glaciers sont en train de fondre. Hein. Là, on est dans l'année des glaciers. Hein, et en fait, d'ici la fin du siècle, on a la moitié des glaciers qui vont disparaître. Donc, cette eau douce, en fait, va potentiellement disparaître dans la mer, hein, pour les glaciers qui sont situés en mer. Et puis, pour les glaciers de montagne, en fait, elle va disparaître trop vite, ce qui va créer justement des pénuries d'eau, notamment dans les zones montagneuses. Mais c'est important, effectivement, de se rendre compte de la rareté de l'eau douce, qui est celle qu'on utilise pour l'agriculture, pour l'industrie, pour nos usages domestiques, donc pour la transformer en eau potable. Ça ne constitue qu'une minorité, effectivement, de l'eau qu'on a sur Terre.
Et puis par ailleurs, Arnaud Boux, on a donc cette rareté-là qui est factuelle, qui est extrêmement liée aux limites, on va dire, en termes de ressources. Par ailleurs, l'ONU estimait en 2017 que nos besoins en eau vont augmenter de 50% à l'horizon 2030. 2030, hein, c'est quasiment demain, notamment en raison de l'augmentation de la population qui devrait s'établir à 8,5 milliards d'habitants en 2030 et 9,7 milliards en 2050. Est-ce que c'est ce caractère éminemment relatif, finalement, de la rareté qui fait que l'on peut parler d'un phénomène de raréfaction de l'eau plus que de pénurie en soi ?
Exactement, exactement. Parler de pénurie en eau, c'est nécessairement prendre en compte les usages, c'est-à-dire de mettre en parallèle à la fois les ressources disponibles, comme Simon vient de l'évoquer, mais également les usages qui sont liés à la population, mais également à ce qu'on fait de l'eau. Et parmi les premières personnes à avoir tenté de qualifier précisément la pénurie en eau, on peut tout de suite citer les travaux de Malin Falkenmark, donc hydrologue suédoise qui est décédée l'année dernière et qui a, dès les années 70, tenté de développer l'indicateur de stress hydrique, donc une manière de spécifier, de caractériser la pénurie en eau en mettant en regard les disponibilités et la population.
Donc ce qu'on comprend bien, Arnaud Boux, c'est que finalement, on a une ressource limitée, on a un phénomène de raréfaction qui est lié à tout simplement l'idée d'une demande trop forte par rapport à une ressource de fait limitée. C'est une question de relativité. Ça dit, il faut apporter une autre nuance aussi, Arnaud Boux. On a parlé du terme usage de façon très large, mais il faut là encore rentrer dans le détail, parce que l'eau, c'est une ressource a priori renouvelable, c'est a priori tout le cycle de l'eau qu'on apprend en SVT, je crois, à partir d'un certain stade. Donc on pourrait penser que finalement, tout ce qui est emprunté, finalement, se renouvelle et finit par être récupéré. Est-ce vrai pour autant? Est-ce qu'il y a des usages qui relèvent du prélèvement et d'autres de la consommation, et qu'il faudrait bien distinguer là ces deux formes d'usage?
Exactement. La première chose, l'eau, effectivement, est en grande partie une ressource renouvelable. Alors, à l'exception faite de nappes qui sont considérées comme étant captives, où le rechargement se fait de manière extrêmement, extrêmement lente, mais d'une manière générale, l'eau est une ressource renouvelable. Et donc, une surexploitation signifie que l'on va extraire de l'eau plus rapidement que les ressources se régénèrent. Et puis, deuxième distinction importante, effectivement, celle entre le prélèvement, c'est-à-dire la quantité d'eau qui est retirée du milieu à un moment donné, et la consommation, c'est-à-dire l'eau qui va être réellement évapotranspirée, c'est-à-dire qui ne sera pas restituée dans le milieu. On va parler également de prélèvement net.
Et on s'avance peut-être dans les détails scientifiques, mais cette eau qui ne reviendra pas de fait dans ce cycle-là, comment on l'explique? Qu'est-ce qui fait qu'une eau ne revient jamais finalement dans le cycle de l'eau?
C'est le principe de l'évapotranspiration, c'est-à-dire que la majeure partie de l'eau qui arrive sur Terre va être évapotranspirée. Donc cette partie de l'eau va tomber sur les sols, va produire de la biomasse, va s'infiltrer dans les sols et par le phénomène de la transpiration des plantes, que ce soit lorsque l'on va utiliser de l'eau pour la production agricole, mais également la production de biomasse, les forêts, les prairies, elle va être évapotranspirée et repartir dans l'atmosphère.
Simon Porcher, cette distinction, elle est importante, et notamment puisqu'on va pas mal parler du secteur agricole pendant cette émission. En 2019, en France, les usages agricoles ont représenté environ 62% de la consommation d'eau douce et 10% des prélèvements, avec cette distinction qu'on vient de faire. Ça correspond à 3,2 milliards de mètres cubes. Très concrètement, ça, ce sont les chiffres absolus. Très concrètement, ce secteur agricole, l'agriculture, est-elle un des principaux, on va dire, responsable aussi de cette évapotranspiration de l'eau, du fait que l'eau ne revienne pas justement dans ce cycle-là? Dans quelle mesure pèse finalement l'agriculture dans la consommation d'eau?
L'agriculture pèse beaucoup. Alors en France, effectivement, les prélèvements, du côté des prélèvements à l'agriculture, c'est à peu près 10% des prélèvements en eau. Mais si vous regardez au niveau mondial, on est plutôt sur une majorité en fait des prélèvements d'eau au niveau mondial qui sont pour l'agriculture et notamment pour l'irrigation. Donc ça, c'est une première chose. C'est vrai que dans les pays industrialisés, on va plutôt prélever pour refroidir nos centrales électriques, pour produire de l'électricité ou pour des usages industriels. Mais au niveau mondial, et comme il faut nourrir la planète, la plupart des prélèvements en eau se font pour l'agriculture. Alors après, la distinction prélèvement et consommation est importante, et là, elle est vraiment à la défaveur de l'agriculture, parce qu'effectivement, c'est un secteur dans lequel on prélève relativement peu, si on regarde en France, finalement, mais ça constitue l'essentiel de la consommation d'eau, parce qu'on considère que les plantes, une fois arrosées, ont effectivement absorbé l'eau, vont la transpirer, mais en tout cas ne vont pas la redonner au milieu. Le prélèvement, ça veut dire que je prends de l'eau et puis ensuite je la relance dans le milieu. Donc quand on consomme de l'eau du robinet, par exemple, cette eau est collectée, traitée, puis rejetée ensuite dans le milieu. Voilà, donc il y en a assez peu en fait qui s'évaporent. Alors que quand on est dans le secteur agricole, effectivement, les plantes, elles, absorbent absolument toute l'eau. Et du coup, le secteur agricole est le principal consommateur de l'eau. Mais c'est aussi un gros préleveur, et ça, il faut bien l'avoir en tête au niveau mondial.
Donc on voit bien comment l'eau ne revient pas de fait dans ce circuit, du fait même qu'il s'agisse d'agriculture, donc de champs à ciel ouvert, et donc de plantes qui ont besoin de cette eau pour grandir. On voit là la logique. Et de fait, quand l'eau vient à manquer, ce sont les paysans qui consultent leur baromètre avec angoisse, pour reprendre les mots de cet extrait du Journal des Actualités Françaises de 1949.
En France, la sécheresse fait cette année des ravages. La Seine charrie le long des quais de Paris des bancs entiers de poissons morts de chaleur. Le paysan consulte son baromètre avec angoisse. Des incendies s'allument sans cesse dans les hameaux. Et ce ne sont pas les rares averses d'aujourd'hui qui feront couler l'eau dans les lavoirs, les puits et les mares. Résultat de 35 jours sans la moindre pluie. Dans certaines régions, on ne peut s'alimenter qu'à de rares fontaines. Et l'on voit sur les routes des cortèges de seaux ou de tonnes allant parfois à des kilomètres chercher l'eau nécessaire. Le mal est si grand que la vieille foi des ancêtres rappelle le ciel à plus de clémence. On prie sur les chaumes pour que vienne la pluie. La campagne française a assez du beau temps.
Arnaud Boux, on l'a dit, la rareté de l'eau est relative parce qu'elle est soumise à la demande, mais elle est aussi relative si on regarde du côté de l'offre, dans le sens où elle est très inégalement répartie dans l'espace et dans le temps. Tout le monde n'est pas confronté de façon égale à ce phénomène de raréfaction. Alors là, on l'entendait dans l'archive, il y a des épisodes bien précis, ce qui sont assez logiques, plus de sécheresse en été. Il y a aussi une question d'emplacement géographique. Certaines régions sont bien davantage soumises à la sécheresse que d'autres. Quelles conséquences cette inégalité fondamentale exerce sur la prise en compte du phénomène de rareté? Est-ce qu'il y a une tendance, par exemple, à confondre sécheresse, qui serait plus conjoncturelle, et pénurie, voire plus, qui serait plus fondamentale, et donc une prise en compte assez différenciée du caractère construit de la rareté?
Exactement. Il faut bien distinguer à la fois la sécheresse, qui est un phénomène climatique, qui s'étend de quelques semaines à quelques années, donc plutôt ponctuel, de l'aridité, qui est une caractéristique de certains climats, de la pénurie. Et la pénurie ne peut être comprise qu'en regard d'usage. Et cette tension entre des ressources et des usages va se manifester effectivement de manière plus radicale et permanente dans certains endroits du globe. Mais même dans des régions qui, a priori, sont considérées comme étant abondantes en eau, par exemple en zone de montagne dans les Alpes, on peut être confronté à des phénomènes de pénurie en eau, c'est-à-dire que l'eau n'est pas directement disponible à l'endroit et au moment où on en a besoin.
Arnaud Boux, vous faites d'ailleurs une distinction, vous dites dans votre thèse qui a donné lieu ensuite à un ouvrage que deux types d'approches de la pénurie coexistent. Vous dites que le premier type présente la pénurie comme un phénomène unidimensionnel de nature physique lié à un déficit de ressources, hein, confronté à une demande exogène. Donc ça, on comprend, c'est une forme de mise à l'extérieur du phénomène. Et puis une autre approche qui présente la pénurie comme un point de départ et non comme un point d'arrivée. Et ce second type d'approche permet de mieux prendre en compte la construction sociale aussi du phénomène de pénurie. Qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce qu'on entend par cette idée de la pénurie comme un phénomène social, comme une construction sociale?
Alors, cette idée de construction sociale de la pénurie ne nie pas, absolument pas, que la pénurie est un phénomène éminemment climatique, mais elle rappelle que cette pénurie peut être exacerbée, construite, en fonction des choix qui ont été faits. Dans le cadre de ma thèse, j'ai notamment travaillé sur le cas de la production agricole dans la région d'Almeria, en Andalousie, et montré que les phénomènes de raréfaction, de surexploitation des aquifères, donc des nappes souterraines à Almeria, est le fruit de choix agricoles et économiques qui ont été instaurés au cours du dernier siècle, et qui ont mis en place un système à la fois extrêmement performant à l'échelle de la parcelle, puisque la plupart des agriculteurs pratiquent une agriculture sous serre, avec une irrigation goutte à goutte extrêmement performante à l'échelle de la parcelle, mais compte tenu de l'ampleur du nombre des serres, des superficies sous serre, participe d'une surexploitation et d'une intensification des pratiques agricoles et donc des prélèvements sur les ressources en eau.
Et de fait, on revient à cette idée que la ressource est finalement ce qu'on en fait, d'où cette idée de construction sociale. Et vous venez de l'illustrer, Arnaud Bouc, c'est finalement parce qu'on a décidé de certains modes de production, de certains outils techniques aussi, qu'on a décidé de gérer de façon très spécifique l'accès et l'usage de l'eau. Et de fait, Simon Porcher, on a passé un certain temps déjà à essayer de tenter de définir ce qu'était la rareté, mais en fait, il faudrait aussi passer du temps à définir ce qu'est l'eau, tout simplement, dans le sens où finalement, on pourrait avoir une définition de l'eau en fonction de son usage, et elle a un peu trois dimensions, c'est ce que vous soulevez aussi dans votre ouvrage. Il y a cette dimension de ressources naturelles qui vient assez simplement à l'esprit, assez intuitivement, mais c'est aussi, l'eau peut aussi être considérée comme un bien public ou encore comme un bien marchand. À chaque fois, cela implique des usages très différents, une conception très différente de cette ressource.
Tout à fait, oui, l'eau, c'est ça qui est très complexe en fait avec l'eau, c'est que c'est à la fois une ressource naturelle, qui est une ressource commune, hein, qu'il faut gérer là vraiment en communauté parce qu'on a différents usagers de l'eau, agricole, industriel, domestique, hein, puis on doit en laisser aussi pour la nature parce que tout le vivant dépend de l'eau et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est aussi un service public, donc le service public de l'eau potable, hein, et donc là, on va traiter de l'eau et la transformer. Et donc l'eau qui nous est donnée au robinet, en fait, c'est une eau qui est transformée, qui contient qui a été traitée avec des produits chimiques, et donc ça devient un bien marchand. Et c'est pour ça qu'on peut lui donner plus facilement un prix. Et aujourd'hui, on voit très bien la surconsommation d'eau, notamment dans le secteur agricole. Ça vient aussi du fait que on a du mal à donner un prix à une ressource naturelle qui est facilement disponible dans la nature, qu'on peut prélever de façon très simple et qui traditionnellement même a été prélevé sans qu'on la paye. On a pris de l'eau là où il y en avait.
Après, on pourrait se dire que le travail de traitement a lui-même une valeur et qu'il est assez aisé de l'identifier, de se dire ça a coûté tant en énergie, tant en ressources humaines, c'est ce qui donne la valeur de l'eau. A priori, pour dire d'un point de vue purement économique, est-ce que c'est si compliqué que ça de donner un prix à l'eau ?
Et alors pour la ressource naturelle, effectivement, c'est ce qu'on s'est dit en tout cas en France, c'est comme les agriculteurs ou les industriels doivent construire l'infrastructure pour prélever l'eau, doivent forer par exemple pour prélever dans les nappes ou doivent construire des différents canaux en fait pour acheminer l'eau vers leurs exploitations, ils payent en fait déjà l'eau. Et puis ensuite est venue la question des redevances. Donc il y a des redevances sur les prélèvements, on paye une espèce d'impôt sur le prélèvement de l'eau. Il y a aussi des redevances pour les pollutions diffuses, pour la pollution non domestique, mais en fait ces redevances restent relativement faibles par rapport à la quantité d'eau qui est prélevée par le secteur agricole ou le secteur industriel et surtout par rapport au coût de la pollution. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien avoir en tête que la moitié des dépenses de politique d'eau, c'est pour éviter la pollution ou pour dépolluer.
C'est du traitement.
Exactement. Et donc, quand on parle aussi de rareté de l'eau, il y a aussi toute cette question qui arrive. Il y a la question de la quantité, mais derrière aussi celle de la qualité, en fait. L'eau de bonne qualité, c'est-à-dire une eau qui n'est pas polluée, est de plus en plus rare, par contre, hein, du fait des pesticides qu'on utilise dans l'agriculture, hein, des nitrates, mais aussi de toute la pollution industrielle, y compris de la pollution domestique. Hein. Mais on a une quantité d'eau, du coup, qui est sous tension, une qualité de l'eau qui est sous tension, et comme il faut dépolluer pour améliorer la qualité de l'eau, et ben ça recrée en fait une rareté parce que l'eau devient plus chère. Et donc on en barre l'accès ou on va augmenter les redevances. Et donc on va diminuer les marges ou on va tuer en fait quelque part certaines activités ou certains usages.
C'est intéressant, Simon Porcher, parce qu'on a l'impression là que se mettent en place des formes de cercles vicieux et que finalement on est dans une situation qu'on n'avait pas forcément connue auparavant. Alors certes, la configuration globale terrestre n'a pas nécessairement changé. Il y a toujours eu beaucoup moins d'eau douce que d'eau salée sur Terre. C'était pas forcément nouveau. En revanche, il y a une nouvelle donne tout de même qui s'instaure. D'un point de vue qualitatif, vous venez de le dire, avec cette question de la pollution. Et puis, on a compris qu'il y avait une pression démographique qui était quand même très importante en termes de demande. Et même du côté de l'offre, le réchauffement climatique modifie considérablement aussi cette offre-là. Est-ce que vous diriez, Simon Porcher, que de ce point de vue-là, on est effectivement à un tournant, que le réchauffement climatique vient poser cette question de la rareté de façon quasiment urgente et quasiment inéluctable ?
Oui, alors oui, parce que le réchauffement climatique, ça fait que les zones sèches sont de plus en plus sèches et que les zones humides, là où il pleuvait beaucoup, vont être de plus en plus humides, il va pleuvoir de plus en plus. Donc ça renforce en fait les inégalités en termes de quantité d'eau qui tombe avec les précipitations. Déjà, et puis effectivement, quand on a moins d'eau, elle est aussi, il y a plus de polluants et elle est plus concentrée en polluants, donc ça a un effet aussi sur la qualité de l'eau. Mais déjà, ça redistribue les cartes. en termes d'eau. Et puis en plus, comme même dans des régions qui sont sèches, en fait, on va avoir une quantité de pluie qui peut rester à peu près pareille, mais la pluie va tomber différemment. On va avoir des pluies importantes qui vont tomber sur une petite période. Et donc là aussi, pose toute la question du stockage de l'eau et de la capacité des sols à absorber l'eau pour qu'on puisse utiliser l'eau plus tard.
C'est ce que j'allais vous dire, que ça modifie aussi profondément tout l'écosystème et ce sur le long terme. Alors on le voit, le changement climatique fait partie de la nouvelle donne, en plus de ce qu'on disait en termes de pression démographique. Et il faut préciser aussi que le stock, un exemple parmi tant d'autres, mais le stock d'eau des principaux lacs mondiaux a été divisé par deux ces 30 dernières années. C'est aussi une question d'offre qui se posait déjà en 1965.
Périodiquement, les sécheresses ont de tout temps posé dans le monde le problème de l'eau. Mais l'accroissement constant des besoins lui fait prendre actuellement une tournure alarmante. Il faut aussi compter avec l'agriculture. Dans la mesure où elle entend se moderniser, devenir intensive, elle ne peut rester à la merci de sécheresses qui étaient la plaie du petit exploitant. L'édification de barrages réservoirs est devenue une nécessité vitale, comme elle l'est aujourd'hui pour l'alimentation de la Côte d'Azur, du Var aux Alpes-Maritimes. On estime que dans moins de 100 ans, la consommation générale égalera les ressources totales en eau douce de la planète. Et le monde devra un jour ou l'autre, pour simplement vivre, faire ce que les Américains, pour des raisons politiques, ont fait à Guantanamo, traiter l'eau des mers pour en faire de l'eau douce. Ce procédé coûte pour le moment 2,5 fois plus cher que les autres, mais la source est pratiquement inépuisable. Il est vraiment étonnant de voir qu'au moment même où ils sont prêts à conquérir la Lune, les hommes doivent résoudre d'urgence un problème expressément terrestre. Redonner à l'eau une abondance qu'ils avaient toujours trouvée toute naturelle.
Adam Books, cette archive a le mérite de nous faire prendre un minimum de recul aussi sur la situation actuelle. Et puis surtout, on voit très clairement une foi assez forte dans le progrès technique, et notamment pour faire face à une ressource qui est considérée, il le disait, comme toute naturelle. En fait, on pourrait se dire aussi, sans que la prise de conscience ait été immédiate non plus pour vis-à-vis du réchauffement climatique, mais qu'il y a toujours eu quand même cette prise de conscience de la valeur de l'eau en tant qu'élément essentiel aussi du développement des économies, et que beaucoup de progrès techniques ont été mis en place justement pour avoir accès à cette ressource.
Bien sûr. Auparavant, j'aimerais juste revenir effectivement sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, le changement climatique pose tout un ensemble de contraintes et reconfigure une partie de la disponibilité des ressources. Mais le réchauffement climatique participe également d'une augmentation des températures. Et donc, ça va avoir une incidence non seulement sur la pluviométrie, sur le régime hydrologique des différents cours d'eau, mais également sur l'évapotranspiration. C'est-à-dire que même s'il pleut autant, compte tenu de l'augmentation de la température, les pluies efficaces, les pluies qu'on va qualifier d'efficaces, seront moindres, puisque une part plus importante de l'eau qui va tomber va être évapotranspirée.
D'où l'idée d'un cercle vicieux aussi qui se met en place à travers le réchauffement climatique.
Exactement, exactement. Et donc là, l'extrait qui vient d'être passé montre comment, de tout temps, on a cherché à trouver une manière de repousser, de conjurer cette pénurie en eau au travers notamment de progrès techniques ou d'organisations sociales complexes. L'extrait mentionne la possibilité d'avoir recours à l'eau dessalée, ce qui est effectivement une des manières qui est préconisée, privilégiée dans le sud de l'Espagne pour irriguer cette agriculture sous serre.
C'est une façon d'augmenter l'offre, en fait, de résoudre le problème en se tournant vers d'autres ressources. On va revenir sur la pérennité, on va dire, de telles solutions. Avant cela, Thomas Porcher, j'aimerais tout de même savoir, Simon Porcher, j'aimerais tout de même savoir dans quelle mesure les progrès techniques, et en fait, on parle de progrès techniques, mais on pourrait se dire tout simplement la technique tout court, le fait même de construire des aqueducs, le fait même ou même tout un système de canalisation, d'aller chercher l'eau là où elle n'est pas forcément à proximité, comment tout cet ensemble-là, technique et infrastructurel, a en quelque sorte contribué à invisibiliser aussi le problème de la pénurie en eau. Finalement, c'est construit un système qui aurait eu potentiellement tendance à mettre à distance ce problème de la pénurie.
Oui, on a trouvé des solutions techniques pour acheminer l'eau, en tout cas, là où on en avait besoin. pour la stocker aussi, hein, parce que l'eau se stocke quand même plutôt bien. Alors, elle est stockée naturellement déjà dans les nappes, hein, mais par ailleurs, effectivement, tous les ouvrages de barrage, toutes les retenues collinaires, les bassines qu'on peut mettre visent à stocker l'eau pour reporter l'usage à plus tard et aussi essayer de capter un maximum d'eau quand il pleut, de manière à éviter cette eau qui ruisselle, qu'elle aille dans la mer, donc qu'elle se transforme en eau salée, et en retenir un maximum pour des usages plus tard. Alors, le problème, évidemment, de l'eau, c'est aussi de croire que les solutions techniques vont nous sauver automatiquement. Il faut se méfier quand même du technosolutionnisme.
D'où cette idée de transformer l'eau salée en eau douce, potentiellement, ouais. Qui, on l'imagine, est potentiellement très énergivore aussi, d'où l'idée d'un nouveau cercle vicieux qui se met en place. Est-ce qu'on peut y croire malgré tout, à cette idée d'aller chercher l'eau là où on ne la voyait pas forcément ?
Dessaler l'eau de mer, c'est une solution importante quand on n'a pas du tout d'eau douce. Donc quand on est effectivement au Moyen-Orient, à Singapour, Israël, etc., ou sur certaines îles, là effectivement, il faut dessaler l'eau de mer. Et d'ailleurs, la technologie s'améliore en fait. On arrive à diminuer les coûts, mais ça reste effectivement très énergivore. Ça réchauffe l'eau de mer, donc ça a un impact sur la biodiversité. On recrache au fait la saumure aussi, donc ça aussi ça a des effets sur la biodiversité. Donc c'est pas une solution très écologique actuellement, mais c'est une solution qui peut s'améliorer. Mais ça reste encore une fois une solution pour des zones qui sont en bord de mer et là où il n'y a vraiment pas d'eau douce. Hein. Le mieux, c'est quand même d'utiliser l'eau qu'on a à disposition. Après, il y a d'autres solutions techniques. Hein, dont on parle beaucoup en France, puisqu'on est en train de construire des centaines d'usines, c'est la réutilisation des eaux usées traitées. Donc l'idée d'avoir un espèce de circuit fermé sur l'eau, donc d'utiliser des eaux usées, de les retraiter à un endroit donné et ensuite de les utiliser notamment pour arroser par exemple des jardins, nettoyer les rues, un petit peu pour l'irrigation aussi, mais voilà, pour ces différents usages. Avec là aussi un principe qu'on essaye de suivre en France, c'est de dire, quand on rejetait l'eau de mer avant, donc quand on était en bord de mer souvent et qu'on rejetait de l'eau douce traitée dans la mer, bah plutôt que de la rejeter, là on va la retraiter et l'utiliser, comme ça on ne fait pas de gâchis. Par contre, évidemment, dès qu'on a accès à de l'eau douce assez facilement,
on va préférer se tourner vers cette ressource-là.
Ben, il faut toujours se tourner effectivement vers l'eau douce. Les autres solutions techniques ne s'appliquent qu'à des endroits, effectivement, sur certains territoires, et ne sont pas forcément des solutions miracles, comme certains voudraient nous le vendre.
Arnaud Boux, elle est intéressante, cette question de la technique pour faire face à la pénurie, ou voire ne même pas en prendre conscience. Et peut-être que, mais c'est vous qui allez nous le dire, mais peut-être que ça peut nous expliquer aussi la raison pour laquelle, pendant très longtemps, les économistes ont eu du mal à se saisir de la question de la rareté, et plus spécifiquement lorsqu'elle concerne les ressources naturelles. On a l'impression que c'est un peu un impensé ou tout simplement quelque chose qui n'avait pas lieu d'être. Est-ce que finalement c'est parce qu'il y a cette espèce de foi dans le progrès, cette espèce d'idée qu'avec du travail et des moyens techniques, les ressources naturelles ne seraient jamais limitées ? Est-ce que c'est cela qui explique que les économistes classiques se soient relativement peu saisis du sujet ?
Effectivement, et de manière tout à fait paradoxale, cette question de l'eau reste un impensé pendant très longtemps dans l'histoire de la pensée, alors même qu'elle est fréquemment, en tout cas à plusieurs reprises, évoquée par plusieurs économistes. En premier lieu, par Adam Smith, avec le fameux paradoxe de l'eau et du diamant.
Diamant, oui, tout à fait.
Comment expliquer que un objet, le diamant avec une valeur d'échange extrêmement élevée, présente une valeur d'usage relativement faible, et inversement pour l'eau. Et ce paradoxe mettra longtemps avant d'être résolu. Et c'est avec des auteurs tels que Stanley Jevons, avec le raisonnement marginaliste, avec l'introduction effectivement de la relation entre rareté et utilité, que ce paradoxe sera résolu, pour expliquer que ce qui confère de la valeur, c'est effectivement cette idée de rareté. Et donc, d'une certaine manière, ce qui explique que l'eau, a priori, dans la plupart des lieux, serait d'une valeur marchande relativement faible, s'explique par son abondance. Et donc là, on a également aussi, hein, au préalable, une remise en question de l'idée selon laquelle les ressources naturelles, telle que la défendait Jean-Baptiste Say, sont données gratuitement par la nature, elles sont abondantes et, de fait, elles ne sont pas l'objet des sciences économiques.
Alors, vous avez cité Smith et Jean-Baptiste Say, Arnaud Boux, un autre économiste s'est aussi saisi du phénomène pour relier, comme vous venez de le dire, les notions de rareté, de valeur et d'utilité. Cet économiste, c'est David Ricardo qui se penche sur le problème dans ses Principes de l'économie politique et de l'impôt en 1817.
Que l'eau devienne rare, dit Lord Lauderdale. et qu'elle soit le partage exclusif d'un seul individu, sa richesse personnelle croîtra, car l'eau, dans ce cas, aura une valeur. Et si la richesse nationale se compose de la somme des fortunes individuelles, par ce moyen, la richesse générale se trouvera aussi augmentée. La richesse de cet individu augmentera, nul doute. Mais comme il faudra que le fermier vende une partie de son blé, le cordonnier une partie de ses souliers, et que tout le monde se prive d'une partie de son avoir dans l'unique but de se procurer de l'eau qu'ils avaient auparavant pour rien, ils seront tous appauvris de toute la quantité de denrées qu'ils sont forcés de consacrer à cet objet. Et le propriétaire de l'eau aura un profit précisément égal à leur perte. La société jouira toujours de la même quantité d'eau et de la même quantité de denrées, mais la distribution en sera différente. C'est cependant dans la supposition qu'il y a seulement monopole d'eau et non disette, car si l'eau manquait, la richesse nationale et individuelle se trouverait réellement réduite, en tant qu'elle serait privée d'une portion d'un des objets qui servait aux jouissances générales. Non seulement le fermier aurait moins de blé à donner en échange pour les autres denrées qui pourraient lui être nécessaires ou agréables, mais il éprouverait, comme tout autre individu, une diminution dans la jouissance d'un objet aussi essentiel à son bien-être. Il y aurait donc non seulement une répartition différente des richesses, mais il y aurait encore perte réelle de richesses.
Arnaud Boux, ce qu'on entend à travers ces principes de l'économie politique et de l'impôt de David Ricardo, c'est tout de même une sacrée prise de conscience. Il y a finalement cette formalisation de l'idée de l'eau comme marchandise. C'est acté à ce moment-là.
Comme marchandise et comme étant une composante de la richesse nationale et également... On pourrait faire le lien avec les travaux de David Ricardo en termes d'avantages comparatifs, c'est-à-dire que l'eau est une composante de la richesse d'un État, d'une nation.
Ce qui est tout de même une avancée majeure. Et puis au fur et à mesure que l'économie en tant que science, en tant que discipline se formalise, notamment au début du XXe siècle, finalement le concept même de rareté va prendre presque toute la place. On a un peu envie de se dire ça, Arnaud Boux, puisque l'économie est censée justement être une science, entre autres, de l'allocation entre une offre et une demande, de fait, et donc se saisir du problème lorsque un déséquilibre trop important advient. Est-ce que c'est à travers cette formalisation de l'économie du début du XXe siècle que le principe de la rareté est bel et bien saisi par les économistes ?
Effectivement, suite au marginaliste, hein, comme on l'a déjà dit, avec l'approche néoclassique, avec la définition... disons canonique de l'économie, selon laquelle l'économie est la science qui étudie le comportement humain en tant que relation entre les fins et les moyens rares à usage alternatif, l'idée de rareté est au cœur de ce qui fonde la valeur et qui marquera la manière d'appréhender la valeur des biens.
France Culture.
Et comment s'appelle-t-elle ?
On y dit Manon des Sources.
C'est évidemment pas son nom.
Bien sûr que c'est pas son nom. On y dit Manon des Sources parce que son père, c'était le bossu des Sources.
On l'appelait comme ça parce qu'on le rencontrait souvent dans la colline avec la baguette à la main, là.
Entendez-vous l'écho ?
Non, c'était un vrai sorcier. C'est-à-dire qu'il cherchait de l'eau pour lui, pour sa ferme. Il en a trouvé ?
On peut faire rien du tout.
Aliette Ovine.
Simon Porcher, ce qui est intéressant avec cette évolution aussi de l'histoire de la pensée économique qui finalement fait de la rareté un facteur de valeur très important, et si une ressource ou un bien, mais en l'occurrence une ressource a de la valeur, c'est aussi parce qu'elle est rare. On a quand même un petit moment avant de prendre, on va dire, qu'il y ait une forme de prise de conscience, notamment vis-à-vis des économistes, de la limite de cette ressource dans l'absolu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cet oubli ou cette inconscience, je ne sais pas comment on pourrait la qualifier, se retrouve aussi aujourd'hui. Vous dites que si en 1992, l'eau est un sujet de préoccupation lors de la conférence internationale sur l'eau et l'environnement de Dublin, le sujet est oublié lors du sommet de la Terre quelques mois plus tard. Le GIEC, de son côté, se concentre sur les questions relatives aux émissions de gaz à effet de serre. Alors certes, dans son rapport de 2022, 2, l'eau apparaît comme un élément central de l'adaptation au changement climatique, mais il y a cette impression, et que vous le dites ainsi dans votre ouvrage, il y a cette impression que tout se fait soit trop tardivement, soit par la petite porte, et que l'eau n'est toujours pas nécessairement au centre des préoccupations. Comment expliquer une telle mise à distance, Simon Porcher ?
L'eau n'est pas au cœur des préoccupations, hein, c'est sûr. H2O n'a pas autant d'importance que CO2. Voilà, en fait, hein, c'est le carbone qui a tout capté. Parce qu'on a tout de suite vu en fait qu'effectivement la pollution, les émissions de carbone, c'était un problème global et que du coup il y avait besoin d'une coordination globale, et d'où la création d'un groupe d'experts internationaux, d'une conférence des parties sur le carbone. On l'a vu aussi sur la désertification et sur la biodiversité. Mais on l'a pas vu sur l'eau. Alors même que l'eau, effectivement, en tout cas une certaine partie de l'eau, et le cycle de l'eau, par exemple, c'est un problème global. Donc le réchauffement climatique affecte le cycle de l'eau, hein, on l'a dit. Il y a plus d'évaporation, d'évapotranspiration. Donc l'air est de plus en plus humide, et donc ça crée aussi des pluies de plus en plus intenses. Ça change les régimes de précipitation. Ça crée des périodes de sécheresse qui sont aussi plus longues. Bon. Donc il y a un vrai effet en fait du réchauffement climatique sur le cycle de l'eau, et donc le cycle de l'eau est global. Et effectivement, l'eau qui s'évapore n'a pas de frontières. L'eau qui s'évapore en Amazonie a des effets sur les précipitations de l'ensemble des pays d'Amérique latine, mais aussi sur les précipitations en Europe. Et donc là, on voit qu'on a quand même un sujet global autour de l'eau, de cette partie de l'eau, c'est-à-dire l'eau qui s'évapore et qui ensuite va retomber sous forme de précipitations.
Mais par ailleurs, et c'est là l'autre partie du paradoxe, Simon Porcher, parce qu'on pourrait se dire, en revenant à des considérations bassement économistes, on va dire, qu'on le sait, l'approvisionnement en eau est un facteur de développement économique, de la même façon qu'à l'inverse, les pénuries d'eau, le manque d'eau est un facteur d'inégalité économique très fort. On le sait, ça a été mesuré, ce sont des choses qui sont connues. Ça n'explique toujours pas pourquoi il y a à ce point une forme de mise à distance vis-à-vis de ce problème de la ressource en eau.
Et je pense qu'on a considéré que c'était un simple problème technique. Et donc, c'était un problème d'infrastructure. Et donc, si on avait de l'argent, on pouvait construire des infrastructures pour stocker l'eau, pour donner accès à l'eau à sa population, à l'eau du robinet. Et donc, c'était vraiment un problème, juste un problème technique et un problème financier. Aujourd'hui, justement, quand on regarde le stress hydrique, donc là où on a potentiellement de la rareté de l'eau au sens de la pénurie, parce qu'on a une demande très forte, ce stress hydrique, il se retrouve plutôt de l'ouest des États-Unis à l'est de la Chine. Donc, on a vraiment cette espèce de ligne horizontale du manque d'eau qui passe par tous les pays industrialisés, hein, européens, les États-Unis, mais aussi les grands pays émergents comme l'Inde et la Chine, évidemment aussi par le Moyen-Orient. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des problèmes de pénurie d'eau ailleurs, hein, mais ça veut dire que là, on voit que sur la carte du stress hydrique, on a effectivement un stress qui est très fort sur toute cette ligne horizontale, parce que aussi la demande pour l'industrie, pour l'agriculture est aussi très élevée. Alors même que la ressource en eau, elle ne change pas, ou elle change très peu. Hein.
Arnaud Bousse, vous souhaitiez réagir à cette question ?
Effectivement, ce qui explique également que l'on ait laissé l'eau, du moins qu'on ait minoré cette question, même si, comme vous l'avez rappelé, hein, dans le dernier rapport du GIEC, elle est omniprésente. Elle fait d'ailleurs partie des 4 risques majeurs auxquels sera confronté le continent européen. S'explique certainement aussi par cette idée que la question de la pénurie en eau était limitée à des zones semi-arides, le pourtour de la Méditerranée, ou des zones plus désertiques. Et aujourd'hui, on a pris conscience que cette pénurie en eau pouvait tout à fait toucher tout un ensemble de pays, de régions, qui historiquement étaient a priori moins concernés par ces questions. L'autre idée, hein, c'est également que derrière cette quantité d'eau dont on parle lorsqu'on va qualifier la pénurie, ça entretient aussi cette idée de possibilité de conjurer la pénurie simplement en termes quantitatifs, mais minore toujours cet aspect que l'eau ne sert pas simplement à satisfaire des besoins, c'est également un milieu de vie. C'est-à-dire que des ressources en eau qui seraient inférieures à ce qu'il serait nécessaire pour satisfaire la pérennité d'écosystèmes seraient aussi tout à fait problématiques que la difficulté à satisfaire des besoins humains.
Cela dit, Simon Porcher, je reprends là le fil de notre histoire de la pensée économique qui nous sert un peu de fil conducteur. On pourrait se dire aussi qu'avec les travaux notamment d'Elinor Ostrom, il y a eu une forme de prise de conscience qu'effectivement on se trouvait dans une sorte de tragédie des communs, avec cette idée qu'on a du mal à prendre en compte le caractère commun, de fait, de l'eau plus que marchandise qu'on a bien évoqué jusqu'ici. Est-ce que ça, ça a eu des retombées concrètes? Est-ce que c'est un tournant du point de vue de l'économie en tant que discipline, mais aussi de façon plus générale sur la façon de repenser les modes de gouvernance aussi de cette ressource?
Les travaux d'Ostrom sont extrêmement importants, effectivement, parce que ça montre deux choses. D'abord, qu'on a une tragédie des communs sur un ensemble de ressources communes. Autrement dit, que chacun, en poursuivant son intérêt personnel, nuit à l'intérêt général.
Et espère que d'autres s'en occuperont de leur côté.
Tout à fait. On surconsomme, mais aussi on surpollue, en fait, sans penser à l'effet que ça peut avoir sur les autres usagers. Et puis, la deuxième chose qui est importante dans les travaux d'Ostrom, c'est de montrer aussi que les biens communs, les ressources communes, doivent se gérer en communauté. Et donc, il faut construire cet esprit de communauté avec des instances de gouvernance qui doivent mettre en avant le fait qu'on est usager de la même ressource. Et c'est comme ça qu'on va trouver des solutions. Et donc cet esprit de communauté est extrêmement important aussi pour la gestion de l'eau, parce que les cours d'eau sont souvent transfrontaliers. Donc on doit gérer avec son voisin. Les bassins d'eau, en fait, ne respectent pas les frontières administratives. On les partage souvent avec d'autres pays, les aquifères aussi. Donc il y a toute cette question, évidemment, de gouvernance avec d'autres pays, et même le long d'un fleuve au sein d'un pays, entre différentes régions, hein, évidemment. Et puis, quand on revient à l'eau comme un bien commun global, il y a toute cette question, évidemment, de penser le cycle de l'eau en communauté, et donc de penser à nos effets sur le cycle de l'eau, nos effets sur les ressources de l'eau, avec cet esprit de communauté pour bien la gérer.
Alors justement, on parlait d'un échelon beaucoup plus local au niveau de la communauté en termes de gouvernance. Comment penser aussi la régulation de façon plus générale en fonction de la façon dont on considère l'eau comme commun, comme marchandise ou comme service public, et comment modifier, inciter le comportement des individus, y compris les plus consommateurs en eau, et donc je parle là évidemment du secteur agricole. On en parle juste après Water No Get Enemy de Fela Kuti, un titre recommandé par notre invité Arnaud Boux.
If you want go wash, now what are you going to use? To ba fe se be o mi lo malo. If you want cook soup, now what are you going to use? To be bang bo na o mi le rare o. If your head de hot, now what are you cool? Tomo bandagba, oh mi lo malo. If your child dey grow, water him go use. If water kill your child, now what are you go use? No no no. Tomi bakpa mo wa oh mi no lo malo. Ko so mo to le she ko malo mi oh. Nothing without water. Ko so mo to le she ko malo mi oh.
De France Culture, nous explorons aujourd'hui dans Entendez-vous l'écho, le concept de rareté à travers les évolutions des usages de l'eau, usage qui concerne particulièrement le secteur agricole. Simon Porcher, je rappelle que vous êtes professeur des universités en sciences de gestion à l'Université Paris Dauphine PSL. On a évoqué le fait que rapidement les sociétés prennent conscience de la valeur, et en particulier de la valeur économique de l'eau, déterminée en partie par sa rareté, c'est-à-dire une demande qui serait bien supérieure à l'offre. Or, on pourrait logiquement se dire que cette rareté est reflétée par le prix. On a commencé à l'évoquer. Est-ce le cas aujourd'hui en France, sachant que je le dis pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, qu'un litre de l'eau, un litre d'eau en France vaut 0,3 centimes. Est-ce que cela reflète, selon vous, la réalité de cette rareté de la ressource?
Non, ça reflète pas effectivement la rareté de la ressource, hein, pas forcément. Après, en France, on a un pays aussi qui est abondant en eau. Donc on a un pays plutôt humide, ce qui explique que le prix de l'eau au robinet est moins élevé effectivement en France que la moyenne européenne. Donc ça, c'est lié à l'abondance. C'est peut-être plutôt un bon signe. Ça veut dire que notre eau n'est peut-être pas si polluée, parce qu'évidemment, ce qui fait que son prix augmente, c'est aussi la pollution de l'eau. Mais c'est pas forcément effectivement une manière de sensibiliser le consommateur à la rareté de l'eau ou au fait qu'il faille économiser de l'eau, ou moins la gaspiller surtout.
Sachant, Simon Porcher, juste un petit point technique, comment très concrètement est fixé ce prix? Qui le fixe? Ce sont les collectivités? C'est un prix global? Quelle est la part de fixe, la part de variable dans ce prix-là?
Ce sont les collectivités qui le fixent, effectivement. Il y a toujours une part fixe qui est la part abonnement, hein, parce qu'on a un compteur d'eau et donc ça, on paye un abonnement comme pour l'électricité, hein, d'ailleurs. Et puis après, il y a une part variable. En France, en tout cas, hein, voilà. Une part variable qui dépend de la consommation. Donc, on a ce prix de l'eau qui reflète le coût de production de l'eau, c'est-à-dire le fait qu'il faille effectivement la prélever, la traiter, puis ensuite la collecter et l'assainir.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette idée même de donner un prix à l'eau n'est pas forcément évidente, n'est pas forcément naturelle non plus. Je reviens là à nos institutions internationales qu'on évoquait avant la musique, mais en 1992, lors de cette fameuse conférence de Dublin, est actée l'idée de donner une valeur économique à l'eau. Pourquoi est-ce vu comme une solution à l'époque, au tout début des années 90, Simon Porcher?
Et l'idée, c'était justement de montrer la rareté de l'eau. Donc la conférence de Dublin
dit... Rien signer le prix.
Effectivement, dit que l'eau a une valeur, et donc pour signaler sa rareté, il faut lui donner une valeur, et donc il faut lui donner un prix. Ce qui a parfois été mal interprété, parce qu'on disait justement, on transforme l'eau en bien marchand. Non, là, l'idée, c'était plutôt de montrer que ça a une valeur, au sens où l'eau est rare, et donc effectivement, il faut lui attribuer une valeur. Mais ça, c'est extrêmement important, hein, c'est ce qui a été dit d'ailleurs avant, hein. Donner une valeur à l'eau qui reste dans la nature, qui reste dans les nappes, c'est important justement pour amplifier la démarche de sobriété ou pour éviter son gaspillage. Mais pour ça, il faut vraiment lui donner aussi une valeur en dehors des usages humains, donc en dehors de l'usage agricole, industriel ou de l'eau potable, et penser que l'eau est nécessaire pour tout vivant, tout écosystème, et pour la stabilité des écosystèmes dans lesquels on vit.
On parle là avec la question du signal prix de l'eau comme marchandise. Or, cette vision de l'eau marchandise donne lieu à une régulation spécifique qui n'est pas la même que pour l'eau conçue comme bien public ou comme bien commun, nous avons le voir. Vous évoquez Arnaud Boux dans un chapitre de l'ouvrage Théorie de la régulation, un nouvel état des savoirs, l'exemple australien où les marchés de l'eau agricole sont régulés de façon très spécifique. Quelle solution a été trouvée? Quel système se met en place avec les irrigants?
Alors, le cas australien est assez éloquent pour comprendre la valorisation économique de l'eau, puisque c'est un des systèmes de marché au pluriel de l'eau les plus perfectionnés. Et on retrouve tout un ensemble de préceptes de la théorie économique, notamment les travaux de John Dales, autour de l'idée, premièrement, d'instaurer des droits de propriété exclusifs et transférables, et ensuite d'instaurer un marché qui permette aux différents ayants droit, titulaires de ces droits de propriété, en l'occurrence des droits de propriété sur l'eau, de les échanger en fonction du signal prix envoyé par le marché, qui lui-même, ce signal prix, est fonction de la rareté de l'eau.
Donc, Allez-y, Arnaud Boux.
Excusez-moi. On a effectivement un marché de l'eau des marchés de l'eau qui ont été instaurés à la suite de la sécheresse du millénaire, qui a concerné l'Australie jusqu'au début des années 2000. Et la mise en place de ces marchés de l'eau visait à conjurer la pénurie, étant entendu que si l'eau devenait rare, elle deviendrait plus chère et donc les usages, de fait, s'adapteraient.
Et Arnaud Boux, est-ce qu'on peut dire que ce système-là a été efficace du fait en termes de gestion de l'eau et de sa potentielle rareté?
En tout cas, si j'en crois un article récent de Quentin Grafton, Jamie Pittock ou encore Sarah Wheeler, donc des économistes, paru en 2024, qui analyse 30 ans de réformes en Australie grâce à 27 indicateurs, il montre que ce soit pour les zones humides, pour la continuité des flux, ou encore pour la qualité de l'eau comme milieu de vie pour les poissons, les résultats sont non seulement insatisfaisants, voire pour certains même dramatiques.
Simon Porcher, j'imagine que vous me voyez venir, mais à partir du moment où un système de marché se met en place avec une monétisation vraiment de l'eau, on conçoit quand même assez rapidement que des formes d'inégalité peuvent survenir rapidement. Est-ce que c'est ce qui s'est passé en Australie? Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles la mise en place d'un marché de l'eau n'est pas nécessairement souhaitable?
Oui, alors le marché de l'eau, là effectivement, ce qui est plutôt séduisant dans l'idée, c'est qu'on fixe un quota et donc on peut agir sur la quantité d'eau totale qui est prélevée tous les ans. Ce qui est plus embêtant dans les résultats, c'est que les grosses exploitations agricoles, elles, ont plus d'argent et donc peuvent racheter les droits à utiliser de l'eau de petites exploitations. Et donc, c'est ce qui s'est passé en Australie. Hein. Il y a des grosses exploitations qui sont agrandies, des petites exploitations qui, face à la complexité du mécanisme, mais aussi au fait qu'elles ne pouvaient pas racheter de l'eau supplémentaire, ont préféré revendre leurs droits à utiliser de l'eau. Donc ça, c'est la première chose. Hein. Ça crée, en fait, une concentration des exploitations agricoles. Et donc, est-ce que c'est ce qu'on souhaite ? Ça n'est pas sûr. Puis la deuxième chose, c'est qu'on ne fixe pas le prix. On fixe la quantité qui va être échangée, mais pas le prix. Et donc, si toutes les exploitations agricoles diminuent leur utilisation d'eau parce que il fallait, en fait, justement des solutions techniques assez simples pour diminuer la consommation d'eau, ben on se retrouve avec un prix de l'eau sur le marché qui va diminuer. Et donc là, on envoie un très mauvais signal, particulièrement dans une zone qui est très sèche.
France Culture.
T'as toujours pas l'eau courante ?
Ah, il voulait me l'installer, mais j'ai refusé. Hein.
Pourquoi ?
Ah, c'est pas ça. Quand on a dans son jardin une source d'eau minérale, on n'a pas besoin de la leur. Va chercher un verre propre. Je te fasse goûter ça.
Entendez-vous l'écho ?
Tiens, vois ça, ça va te faire du bien. Puis ça va te faire pousser le poil sur l'estomac. De quoi ? C'est bon ! Tu n'auras jamais de rhumatisme, ni la goutte.
Aliette Ovine.
En France, Simon Porcher, les choses sont organisées un peu différemment, c'est le cas de le dire. Depuis 1964, une loi a délimité 6 bassins hydrographiques administrés. Alors les choses ont un peu évolué depuis. Il y en a ce nombre-là, je crois, doublé. Et puis ces bassins-là sont administrés. Ces 6 bassins sont administrés par autant d'agences de l'eau, de fait, encore aujourd'hui. Et vous l'avez déjà évoqué en début d'émission, c'est tout un système de redevances sur les usages et de financement des investissements qui est mis en place. Très concrètement, quel est ce rôle des agences de l'eau ? Et puis, quelle vision finalement de la ressource en eau exprime cette organisation-là française ?
Alors effectivement, elle capte des redevances hein, auprès des usagers de l'eau pour financer un certain nombre d'infrastructures de l'eau. Et aussi, il y a des comités de bassins qui sont des instances démocratiques de l'eau où on va réunir les différents usagers de l'eau ou des représentants aussi des citoyens, donc des élus locaux, des représentants des associations de défense de l'environnement, par exemple, ou des consommateurs, de manière à créer cette espèce de communauté, hein, cette démocratie de l'eau, pour débattre de la manière dont on va effectivement préserver l'eau au niveau d'un bassin et de quelles infrastructures et à quel niveau aussi on va financer ces infrastructures. Le problème de cette démocratie de l'eau, hein, c'est que comme toute instance démocratique, il y a des personnes qui savent plus se faire entendre que d'autres, ou mieux se faire entendre, ou qui vont réapparaître sous différentes formes. Et donc souvent, on a pu critiquer dans le passé, en tout cas, la composition de ces instances démocratiques, parce que les agriculteurs savaient mieux se faire entendre via les syndicats, et puis en plus, un certain nombre d'élus locaux sont agriculteurs. Et donc, on entendait parfois plus la voix des agriculteurs ou de certains industriels que des usagers domestiques, par exemple.
Et du reste, Simon Porcher, l'actualité relativement récente, ça tout même va dans votre sens, j'ai envie de vous dire, puisqu'il y a eu ce fameux plan eau lancé le 30 mars 2023 par Emmanuel Macron, qui visait à la mobilisation générale pour économiser la ressource hydrique de 10% d'ici 2030 et l'augmentation de la redevance sur les pollutions diffuses perçues sur la vente des pesticides et celles sur les prélèvements d'eau pour les cultures irriguées initialement prévues ont été de fait abandonnées alors qu'elles auraient pu rapporter respectivement 37 et 10 millions d'euros et qu'elles étaient destinées à renforcer les leviers d'action des agences de l'eau. Très concrètement, on voit que cet enjeu de la gestion de l'eau, Simon Porcher, est un enjeu éminemment politique. De façon assez paradoxale, c'est très compliqué de faire consensus autour de cette notion de gestion.
C'est compliqué à un niveau local et c'est aussi compliqué en France parce qu'un certain nombre de décisions sont centralisées quand même en France. Et donc si vous arrivez à faire pression aussi sur des ministres ou sur des élus de l'Assemblée, de la représentation nationale, vous pouvez quelque part annuler les décisions qui ont été prises et étaient prises au niveau local. Donc il y a aussi toutes ces tensions qu'on va retrouver. Et puis là on parle effectivement d'une augmentation de redevances de quelques dizaines de millions supportés par les agriculteurs, évidemment, hein, qui sont dans une situation économique complexe, mais encore une fois, si on met au regard de la dépollution, du coût de la dépollution, qui se chiffre plutôt en centaines de millions chaque année, voire en milliards, on est quand même sur deux poids, deux mesures.
Ce qui est intéressant aussi, Arnaud Bouc, c'est qu'en 1992, une loi reconnaît l'eau comme patrimoine commun de la nation. Ce n'est pas rien, les mots ont un sens. Et des instruments de planification sont alors mis en place. Ce sont les fameux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux qui se déclinent ensuite en fonction des enjeux locaux. Très concrètement, cet enjeu de planification, dès lors qu'on parle de bien commun, est-ce que c'est une façon de réguler les comportements sans passer par le prix, justement, mais en passant par une espèce de vision de ce qui serait juste, de ce qui serait, on va dire, raisonnable en ce qui concerne la gestion de ressources en eau, et que ça permet de contourner aussi les potentiels écueils d'une augmentation, par exemple, du prix de l'eau pour les ménages et les industriels.
Effectivement, la France est bien dotée du point de vue de la législation pour accompagner et encadrer les usages de l'eau. Donc, en 1992, et puis au préalable, la loi de 1964, qui crée justement les agences, initialement appelées les agences financières de bassin, puis aujourd'hui les agences de l'eau, avec la volonté de mettre en place des instruments de planification dont vous avez parlé, dont Simon a parlé, les fameux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, qui sont définis pour une période de 6 ans, et eux-mêmes qui vont être déclinés à l'échelle des sous-bassins en schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Après cette loi de 92, d'ailleurs, suite à la directive 4 sur l'eau à l'échelle européenne, une nouvelle loi sur l'eau et les milieux aquatiques va renforcer la portée réglementaire de ces instruments de planification, et notamment la loi de 2006, hein, donc cette LEMA, va entériner le caractère d'impôt des redevances perçues par les agences de l'eau.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a là un peu deux jambes. On a l'impression qu'on a à la fois cette volonté législative, cette volonté d'encadrement, et puis aussi donner une forme de direction via ces fameux schémas, et puis faire cette idée d'un partage commun de l'eau de façon la plus, on va dire, globale possible, dans le sens où on a une vision assez large des différents acteurs qui pourraient potentiellement rentrer en conflit d'usage, et justement comment éviter ces conflits. Et une autre jambe qui constitue à des incitations beaucoup plus individuelles. Et là, il faut rappeler tout un ensemble d'initiatives qui ont été prises récemment par certaines municipalités, puisqu'on a dit que c'est au niveau des municipalités que ça se joue. On peut citer l'exemple de Dunkerque, de Montpellier, de Libourne, d'Arras ou Rouen, qui, plutôt qu'une augmentation généralisée du prix de l'eau, ont décidé de mettre en place une tarification progressive. À Dunkerque, par exemple, il y a 3 tranches, essentielles, utiles et de confort. À Montpellier, c'est au moyen de compteurs individuels, alors qui ne concernent que 33% de la population, mais tout de même qui permettent de justifier, on va dire, de certains tarifs. Simon Porcher, est-ce que ça vous semble être une alternative ou en tout cas une issue qui a du sens, effectivement, d'en passer par une régulation quasiment individuelle au compteur près de la consommation en eau ?
Pour la consommation d'eau potable, ça me semble être une bonne idée d'expérimenter, en tout cas pour les collectivités, effectivement des changements de tarifs et d'avoir des tarifs qui ne soient pas complètement linéaires. Donc d'avoir un tarif qui puisse varier selon le niveau de consommation ou selon la saison, comme ça a été mis en place dans la métropole toulousaine. Donc avoir un tarif qui change selon les saisons, parce que l'eau est plus rare pendant l'été, ou parce qu'on est une commune touristique et donc on a un afflux de touristes et donc on a un réseau qui est surdimensionné pour alimenter ces touristes, ça me semble être une solution potentielle, en tout cas qu'il faut expérimenter ou à laquelle il faut penser. Après, on pourrait faire pareil sur les redevances en réalité, hein. Les redevances de prélèvement, on pourrait avoir aussi quelque chose qui soit en escalier et selon l'état de la ressource, avoir des redevances qui soient plus élevées ou selon la saison, avoir des redevances plus élevées. Donc pour envoyer le signal que quand on prélève en été, par exemple, en saison sèche, il faudrait payer plus cher cette redevance de prélèvement.
Arnaud Boux, sur cette question, vous souhaitiez réagir ?
Oui, effectivement, faut bien distinguer en fait les différents usages, hein, puisque la tarification pour l'eau potable, compte tenu de l'élasticité relative de la consommation et de la réaction des consommateurs au prix de l'eau, ce n'est pas du tout la même chose que pour d'autres usages. Sur cette question, lorsqu'on regarde la part des redevances qui sont payées par certains usagers, faut rappeler que la majeure partie des redevances payées aux agences de l'eau du fait des usagers de l'eau potable, contrairement aux agriculteurs qui ne payent qu'une part restreinte, limitée de ces redevances. Et également sur la question de individualiser ou gestion collective. Alors même si effectivement, comme Simon l'a bien rappelé, les comités de bassin visent à mettre en place ce qu'on peut qualifier de parlement de l'eau, tout un ensemble de mouvements visent à consacrer l'eau comme bien commun, c'est-à-dire de mettre en place une réappropriation citoyenne des enjeux liés à l'eau. Donc on peut parler par exemple de l'appel du Rhône ou du Parlement de l'Isère ou du Parlement de Loire pour tenter d'encourager cette concertation autour des choix qui sont faits autour des usages de l'eau.
Et c'est du reste, Arnaud Boux, une vision qui prévaut en Andalousie, que vous avez particulièrement étudiée. Est-ce que ça a fonctionné là-bas, cette vision justement de l'eau comme commun? Et vous avez 20 secondes pour me répondre, car c'est bientôt la fin de cette émission.
Alors, si on regarde les ressources, non. Mais là, c'est là qu'il faut distinguer le commun comme mode de gestion. Effectivement, à Almeria, les agriculteurs sont organisés en communautés d'irrigants et gèrent l'eau comme un commun au sens strict. Mais le commun, c'est également un principe politique d'action et c'est une manière d'envisager à l'échelle d'un bassin, voire plus largement, ces liens avec les autres usagers, mais également à propos de son milieu de vie.
Eh bien, merci beaucoup Arnaud Boux et merci à vous Simon Porcher d'avoir participé à cette émission.